Ces dernières semaines, j'ai regardé une quantité incroyable de vidéos de routine matinale, surtout celles des hommes.
Ils mangent une banane puis s'en frottent la peau sur le visage.
Alors, au lieu de faire mes dissertations vidéo habituelles, je me suis dit, pourquoi ne pas devenir l'un d'eux? Vous savez, pourquoi ne pas essayer la meilleure routine matinale de 2025, celle qui, selon Internet, est censée me rendre sexy, riche et disciplinée, et rayonner de l'énergie de l'homme qui ne boit que du café noir et parle de stoïcisme à n'importe quel moment de la journée. La première étape a été la nage froide. Je l'ai faite. C'était génial. C'était transformateur. J'ai l'impression d'avoir atteint un nouveau niveau d'illumination. Maintenant, avant de faire du freestyle, je dois passer à la deuxième étape, les entraînements. Alors, à bientôt. Mais avant ça, je dois vous parler du sponsor du jour, Aura. On connaît tous cette application de réseau social qui collecte nos données pour les vendre à qui veut. Vous et moi pourrions aller sur le site web de n'importe quel courtier en données et acheter les données de n'importe qui pour quelques dollars. C'est tout à fait légal. Les grandes entreprises mal sécurisées se font pirater chaque jour et vos informations personnelles sont vendues sur le dark web, ce qui permet aux spammers, aux escrocs et aux usurpateurs d'identité de vous cibler. Et vous savez quoi? Ils n'en subissent aucune conséquence. Les gouvernements sont extrêmement lents à résoudre ce problème. Et le risque de fuite d'informations personnelles est assez élevé. Nous voulons donc faire de notre mieux pour nous protéger. C'est pourquoi j'utilise Aura, le sponsor du jour. Aura assure ma sécurité en ligne en faisant tout le travail à ma place. Ils identifient les courtiers en données qui vendent mes informations et soumettent des demandes de désinscription en mon nom. Vous pouvez constater des résultats en quelques semaines seulement. Moins de spam, moins d'emails douteux. Aura me prévient également rapidement si quelqu'un tente d'utiliser ces informations pour accéder à mes comptes bancaires ou de crédit. Et dans le pire des cas, ils peuvent me donner jusqu'à 5 millions de dollars d'assurance contre le vol d'identité. Enfin, l'application Aura dispose également d'un VPN avec plus de 100 localisations virtuelles. Tout se passe dans une seule application. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez suivre mon lien aura.com/aliskaipel pour un essai gratuit de 14 jours. Cela laissera suffisamment de temps à Aura pour déterminer si vos données personnelles sont exposées. Merci à Aura d'avoir sponsorisé la vidéo. Et oui, revenons-en à nos moutons. Dans son livre, La Fabrius, économiste et chat de gale, compare la salle de sport à une usine, comme le montre le titre du livre. La Fabri, qui signifie « fabrication », autrement dit, la fabrication du muscle. Dans ce livre, il examine l'utilité de la salle de sport dans le contexte de notre économie, une économie capitaliste. Il affirme que la salle de sport présente de nombreuses similitudes avec l'usine. Et à bien y réfléchir, cette comparaison est tout à fait logique. La salle de sport et l'usine disposent toutes deux d'un parc de machines lourdes, et les deux sont organisées dans un espace propice à la collaboration et à la compétition. Quand on y pense, en entrant dans la salle de sport, on entre souvent dans un espace assez sombre, on a l'impression d'être hors de la réalité. Il faut ensuite passer devant l'accueil, puis se diriger vers les vestiaires pour enfiler sa tenue, et enfin rejoindre son poste de travail. On établit son programme, ce qu'on va faire ce jour-là. On se chronomètre, on organise sa séance en différentes tâches, et une fois cela fait, on retourne au vestiaire et on vit à la salle de sport. En quoi est-ce différent d'une usine? Si cette comparaison était absolue, pourquoi les gens paieraient-ils pour aller à la salle de sport? N'ont-ils pas mieux à faire? Selon Gual, il y a beaucoup de similitudes entre la salle de sport et l'usine, mais il y a aussi une différence. Pour lui, cette différence est la raison pour laquelle de plus en plus de gens vont à la salle de sport, surtout les hommes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la salle de sport, chacun a le contrôle. Il contrôle son programme, son emploi du temps, son corps et ses résultats. Ce n'est pas le cas en usine. En fait, dans nos économies capitalistes, le travail a évolué d'une manière qui donne de moins en moins de contrôle aux travailleurs. Vous savez, à l'école, on nous enseigne le sur-mesure, cette théorie du management qui analyse et synthétise les flux de travail. Son objectif principal est d'améliorer l'efficacité économique, en particulier la productivité du travail. On peut résumer cela en un mot, la spécialisation. Les travailleurs apprennent à se spécialiser dans une tâche et deviennent super efficaces en effectuant la même tâche encore et encore. C'était le 20e siècle, mais depuis, Internet a émergé et a complètement changé notre façon de travailler. Il a dématérialisé le travail. Nous avons donc maintenant cette combinaison de sur-mesure et d'Internet, synonyme de spécialisation et de dématérialisation, ce qui rend notre travail assez irréel, intangible et insatisfaisant. Même les ouvriers peuvent ne jamais voir le produit final de la chaîne dont ils font partie, car vous savez que ces produits peuvent être expédiés à des milliers de kilomètres. Beaucoup d'entre nous accomplissent les tâches qui nous sont assignées sans vraiment savoir quel en sera le résultat. On fait ce que le manager nous envoie, on le renvoie, et puis c'est fini. Ça s'en va. Du coup, en tant que travailleur, on ne peut pas vraiment avoir la satisfaction du travail accompli. On ne peut pas regarder le résultat final et se dire « voilà, c'est ce que j'ai fait ». Parce que ça ne marche plus comme ça. Pourtant, on peut trouver cette satisfaction à la salle de sport. Une fois la séance terminée, c'est fini. On peut regarder les poids qu'on a soulevés. On peut suivre tout ça. Ou on peut simplement se regarder dans le miroir et faire un petit selfie, ou autre. C'est la pose des sportives, non ? J'en étais une. D'ailleurs, j'ai atteint les 5000 abonnés sur Instagram grâce à ma petite publication fitness. Dans son livre, Gall explique que dans le contexte économique actuel, la salle de sport est devenue un lieu où les travailleurs et les individus peuvent compenser les frustrations ressenties au travail, en terminant une séance d'entraînement, en battant un record personnel ou en partageant leurs courses ou leurs selfies sur Instagram, et en obtenant une certaine validation. Ce sont des choses concrètes. Ce sont le fruit d'un travail acharné qui porte ses fruits. Autrement dit, la salle de sport est un lieu d'autodétermination. Cela signifie que la salle de sport est un lieu où l'on peut forger sa propre identité, sa subjectivité. D'autres pourraient parler de confiance en soi, mais je préfère utiliser le terme d'autodétermination. Si je m'exprime ainsi, c'est parce que, tout au long de l'histoire, la salle de sport ou le sport ont été un lieu de politisation. J'entends par là que l'atmosphère d'autodétermination favorise la formation d'une identité politique. En résumé, si vous pouvez soulever des poids, vous pouvez améliorer votre condition sociale. Alors, relevez la barre et revendiquez vos droits. Même si j'apprécie cette comparaison entre l'usine et la salle de sport, il est important de souligner que la salle de sport est bel et bien présente dans l'économie capitaliste. Les salles de sport modernes n'ont rien de véritablement révolutionnaire. On sait que prendre soin de soi en allant à la salle et en mangeant sainement peut avoir des répercussions positives sur son travail. On devient plus productif, plus concentré. Ça fait le bonheur du manager, du patron. Si vous allez vous-même à la salle de sport, vous savez qu'ils sont pleinement intégrés à l'économie captiviste. On les encourage à consommer des cours, du matériel, des vêtements, des boissons, des compléments alimentaires, de la nourriture, dont j'ai besoin en ce moment. C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai donc trois types de compléments, du fer, de la vitamine B12 et de la vitamine D, car je mange peu de viande et j'ai vu sur internet qu'il était bon de se supplémenter avec ces produits. Je ne vais pas mentir, après avoir fait des recherches pour cette vidéo, j'ai réalisé que ces produits n'étaient peut-être pas vraiment utiles, du moins pas autant qu'on le dit. Je les ai achetés pour éviter les carences. Et je ne vais pas mentir, je me sens bien après les avoir pris. Vous savez, j'ai l'impression d'être en meilleure santé. Et pour être honnête, je ne suis pas le seul à penser cela. Selon les National Institute of Health, la valeur du marché mondial des compléments alimentaires était estimée à près de 152 milliards de dollars en 2021. Selon le dernier rapport de Statistica, le marché mondial devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2028. Donc oui, les compléments alimentaires sont un outil de plus qui donne l'illusion d'un contrôle et d'une autodétermination. La croissance de ce secteur est cohérente avec ce que nous avons dit dans la partie précédente. Vous savez, nous avons dit que la salle de sport était l'un de ces rares espaces où l'on a le sentiment d'avoir le contrôle sur sa vie. Et nous avons aussi dit que cette atmosphère d'autodétermination peut être réorientée vers un objectif politique. Cela commence donc par le corps, mais cela va bien au-delà. On pourrait appeler cela la politique du corps. Je ne l'ai pas inventé. La politique du corps renvoie à l'idée que le corps est le récepteur ou le miroir de la société. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, le corps d'une femme. Voyez-vous ? Ce corps peut avoir été modifié pour correspondre au canon de beauté par la chirurgie esthétique, ou il peut avoir été blessé par des violences sexuelles. Vous ne le verrez pas forcément. Donc, en gros, le corps reflète la façon dont nous percevons ou traitons les femmes. Voici un autre exemple. Vous avez peut-être vu cette vidéo. Elle est devenue virale pendant un moment. Voici les personnes interrogées le 11 septembre qui ont réagi à l'annonce par Elon Musk des coupes budgétaires dans la santé.
Voilà à quoi ressemble le cancer. Voilà à quoi ressemble la BPCO. Voilà à quoi ressemble la fibrose pulmonaire. Voilà à quoi ressemblent les maladies respiratoires graves. Voilà à quoi ressemble le syndrome post-traumatique. Elles sont toutes en train de mourir. Mais je vais vous dire ce qui les tue encore plus, cette « de redondance toxique ». Ici, cette redondance toxique de devoir sans cesse revenir.
Ces corps mourants sont politiques dans le sens où ils reflètent la façon dont le gouvernement américain traite ceux qui mettent leur santé en danger pour aider ceux qui en ont besoin. Maintenant que cela a été dit, j'ai l'impression que nous comprenons mieux à quel point il est stimulant de reprendre le contrôle de son corps, d'en prendre soin grâce à des compléments alimentaires et à la salle de sport. Plus la société abîme les gens, abîme les corps au travail, à la maison, etc., plus le secteur de la santé et du bien-être se porte bien. Fantastique, n'est-ce pas ? En réaction à cela, nous utilisons notre corps comme un lieu de résistance. Nous disons au monde que nous pouvons surmonter ces obstacles. Nous sommes plus forts que ça. Vous savez, nous avons le contrôle. Avec le temps, le corps, son apparence, ses performances deviennent une obsession au point que nous ne le regardons même plus avec réalisme. C'est précisément là qu'interviennent des troubles alimentaires, la dysmorphie corporelle, l'orthorexie. J'ai moi-même vécu cela. Je pensais avoir le contrôle. Je pensais être autonome. On me disait que je n'avais jamais été aussi belle, que j'étais une source d'inspiration. J'avais de plus en plus d'abonnés sur Instagram, de plus en plus de soutien. Alors j'ai continué. Mais mon mode de vie est devenu de plus en plus incompatible avec une vie sociale normale. J'ai sacrifié du temps avec ma famille et mes amis parce que j'avais trop peur de rater une séance d'entraînement ou de manger quelque chose qui ne correspondrait pas à mes besoins alimentaires. Je vous ai demandé si vous aviez vécu des expériences similaires et comment cela vous avait affecté. Et zut, je n'étais pas prête à entendre tous les commentaires et réponses que j'ai reçus. C'est frustrant, n'est-ce pas? Moins on a de contrôle sur son avenir, plus on investit dans les domaines où on pense encore avoir un peu de contrôle. Par exemple, la santé, le fitness, notre corps, au point de développer des relations toxiques avec lui. Je vais bien maintenant. J'ai une relation saine avec la nourriture et le sport. Mais je vois des gens dire qu'ils vont bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Après avoir observé toutes ces routines matinales, je dois dire que certains comportements sont en fait encouragés. Ils sont tout simplement pas terribles.
Tu te lèves à 8h et moi à 5h. Chaque jour, j'ai 3 heures de sommeil de plus. En un an, cela représente 1096 heures, soit 36 jours de plus rien qu'en se levant plus tôt. Alternativement, on pourrait sauter le petit déjeuner et jeûner par intermittence. De nombreuses études suggèrent que cela pourrait prolonger l'espérance de vie et favoriser la perte de poids. De plus, c'est aussi efficace pour ceux qui manquent de temps le matin.
Autre chose qui m'a vraiment frappé dans ces vidéos, l'isolement social. La vie sociale est le premier sacrifice à faire dans le processus d'auto-optimisation. Je me souviens d'avoir écouté des gourous du développement personnel, je crois que c'était Graham Stephen, se vanter d'avoir travaillé dur pendant sa vingtaine, de ne pas avoir de relations sociales, etc. Ce type vit au milieu de nulle part avec son éditeur et fait des podcasts étranges. Comment peut-on qualifier ce succès? Je sais qu'avoir une vie ennuyeuse est cool maintenant, mais je me demande si on n'est pas allé trop loin. J'ai d'ailleurs pensé à faire cette vidéo après avoir lu cet article de Dast. Ça s'intitule « Est-ce que quelqu'un fait l'amour après cette routine de soins du soir en 12 étapes ?» On investit tellement de temps dans l'optimisation de soi que ça gâche notre vie sociale. Et encore une fois, c'est évidemment une réaction à la société dans laquelle on vit. Vous savez, la pression qu'on nous impose. Ces routines deviennent la seule chose sur laquelle on a du contrôle, la seule chose qui nous procure un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Je n'ai pas les moyens de me payer une maison, mais au moins je peux m'offrir un abonnement à la salle de sport. La planète brûle. On va tous mourir, mais au moins, je peux prendre mes compléments alimentaires et me sentir en bonne santé, et ça me rend heureuse. En parlant de mort, je pense qu'il est temps de méditer. Bon, je vais suivre ce protocole. Ça ne dure que 5 minutes. Je dois être attentif à mon inspiration, à mon expiration, me concentrer sur mon rythme cardiaque et me détendre. Idéalement, il faut chasser toute pensée intrusive, mais je sais que c'est pour ça que je ne médite pas beaucoup. Ça arrive d'un coup. Mais bon, on va quand même essayer. Bon. Bon. Mince, ça ne fait que 5 minutes et je me sens tellement détendue. Je suis sûre que vous pouvez l'entendre rien qu'au son de ma voix. Je pleure littéralement. Je ne suis plus habituée à la lumière. Bref, pendant longtemps, les gourous du développement personnel n'incluaient pas vraiment la méditation dans leur routine matinale. La méditation était considérée comme inutile ou chronophage, un truc de fille, pas les règles. Ces dernières années, cependant, même les gourous du développement personnel les plus acharnés ont changé d'avis. La plupart des routines matinales que j'ai regardées incluaient à un moment ou un autre une forme de méditation. En 2020, j'ai humblement donné un nom à ce phénomène. Je l'ai appelé développement personnel alternatif. J'ai dit que le développement personnel alternatif remplaçait progressivement la bonne vieille culture du travail acharné, qu'il la critiquait, mais ne l'abandonnait pas complètement. J'ai dit que des gens comme Nathaniel Drew ou Matt Davella étaient de bons exemples de ce genre. Le développement personnel alternatif s'inspire du stoïcisme et de la spiritualité. Il souligne l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit pour la réussite personnelle. Il faut dire que cette notion de soin personnel a toujours été présente dans le développement personnel, d'une manière ou d'une autre. Le livre de Samuel Smilesburg est sans doute l'ancêtre du genre. Publié en 1859, il s'inscrivait dans les idéaux victoriens d'autonomie et de respectabilité comme vertu morale. Le livre a été encensé par les riches entrepreneurs, mais décrié par la gauche. Rien n'a vraiment changé. L'auteur y a écrit sur l'argent, l'énergie et le courage, les hommes d'affaires et la notion de caractère. C'est là que le soin personnel entre en jeu. On voit très tôt les gourous du développement personnel ériger le soin personnel, ou cette notion de caractère, en pilier de la réussite. Vous savez, le libéralisme était la promesse d'une ascension sociale. Ainsi, votre apparence était censée refléter vos valeurs et votre désir de réussite. Ces idées s'inspirent des philosophes grecs anciens, notamment Socrate et Platon, qui ont écrit et parlé de la philosophie de la connaissance de soi. Socrate interpellait régulièrement les jeunes pour leur dire de prendre soin d'eux-mêmes. Il leur reprochait de consacrer toute leur attention à accroître leur richesse, leur réputation et leur honnêteté, sans même se soucier de leur raison, de leur vérité et de l'amélioration constante de leur âme. Dans son Herméneutique, la philosophe Michel Foucault a revisité Socrate et Platon pour mieux comprendre ce qu'ils entendaient par les célèbres préceptes de la connaissance de soi, qui guident notre vie. Elle a réalisé que cette expression était en réalité liée à un autre concept, un concept grec appelé euxanthégupimé, autrement dit le souci de soi. Selon Foucault, l'épimé est une attitude envers soi-même, mais aussi envers les autres et le monde. Comme nous l'avons vu précédemment, cette notion était utilisée par Socrate pour conseiller aux jeunes hommes de travailler sur eux-mêmes, en particulier ceux qui souhaitaient occuper des fonctions publiques. Il est désormais tentant de comparer le rôle de l'épimé à deux à celui de l'entraide alternative. Il est cependant crucial de ne pas confondre le souci de soi avec notre obsession contemporaine pour l'épanouissement personnel. Autrement dit, le développement personnel contemporain utilise l'ancienne philosophie de la connaissance de soi pour l'épanouissement personnel. Mais ce faisant, il passe complètement à côté de l'essentiel. Il a détourné son objectif initial, qui était de former des individus accomplis et conscients, prêts à devenir citoyens, voire à s'imposer politiquement. Aujourd'hui, prendre soin de soi sert principalement à améliorer sa réputation sur le marché des individus. L'extériorité inhérente aux pratiques philosophiques anciennes a été réorientée vers soi. Prendre soin de soi se traduit par un ensemble de pratiques appliquées au corps et à l'esprit. Le soi par soi, affirme Foucault, désigne les actions par lesquelles on prend ses responsabilités et qui se transforment, se purifient, se transforment et se transfigurent. Il considère ces pratiques comme des techniques du soi. Parmi elles, la méditation, la mémorisation du passé, l'examen de la conscience, ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la pleine conscience. Pluto Talk, gourou de l'autodéveloppement, avait même créé sa propre routine matinale. Je ne la ferai pas. Vous comprendrez pourquoi dès que je commencerai à la lire. Vous commencez la journée par une série d'exercices physiques longs, difficiles et fatigants qui vous mettent en appétit. Après cela, vous avez de somptueuses tables servies avec des plats extraordinairement copieux, garnis des mets les plus appétissants. Vous vous placez devant eux, les contemplez et méditez. Ensuite, vous appelez les esclaves. Vous leur donnez cette nourriture et vous vous contentez de leur nourriture extrêmement frugale. Tout cela peut paraître fou, mais essayez de passer autant de temps que moi à observer toutes ces routines matinales. Vous trouverez aussi des choses bizarres. De nos jours, les gourous du développement personnel recommandent de prendre des douches froides, de nager dans l'eau froide. Je l'ai déjà fait. Ils vous demandent de jeûner jusqu'à midi, de faire 10 000 pas par jour, d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux pendant un mois, de suivre les cours de la bourse pendant que vous allez au L, et ainsi de suite. Il y a quelques années, lorsque je fréquentais les communautés de développement personnel, j'entendais sans cesse parler du défi, aller prendre un café et demander une réduction. Quel courage! C'est comme ça qu'on devient millionnaire. Se moquer du développement personnel est très facile, et même très agréable, surtout pour quelqu'un qui a déjà pratiqué ce genre de pratique. Mais oui, maintenir constamment un tel niveau de discipline crée un sentiment de supériorité morale. Je me suis senti supérieur à vous tous en sortant de ce bain de froid. Mais c'est précisément pour cela que Socrate conseillait aux jeunes hommes de se connaître eux-mêmes. Il voulait dire par là que la relation à soi-même se reflète dans la relation aux autres. Se connaître soi-même signifiait connaître son infériorité, ses compétences, ses produits et travailler dessus pour devenir une meilleure personne pour les autres. Ce n'est pas ce qui transparaît dans toutes ces vidéos de routine matinale. Alors, ces gars-là devraient revenir au classique. Ça donne « Je suis meilleur que toi ». Vous regardez ça parce que vous voulez être meilleur que tout le monde. Ces vidéos vous aideront à être plus organisé et discipliné, ce qui est formidable, mais elles ne vous donneront pas les compétences nécessaires pour être une personne dans ce monde. Pour cela, il faut se connaître soi-même. Et le meilleur moyen d'y parvenir est d'échanger avec les autres pour entendre leurs histoires et leurs expériences, afin de mieux comprendre la vôtre, vos propres expériences et votre place dans le monde. J'ai entendu dire dans une de ces vidéos sur la routine matinale que certaines bouteilles contiennent du BPA, bisphénol A, qui
augmente la testostérone. Je l'ignore. Mais des recherches ont montré que les bouteilles en plastique contenant du BPA, bisphénol A, un composé semblable à l'œstrogène, diminuent la testostérone et la libido, rendent stériles et peuvent même entraîner une gycomastie. En d'autres termes, c'est du mambo.
En ce moment, je travaille à développer mon énergie masculine. Alors, Que dois-je faire ?
C'est là que je prends mon temps le matin. J'utilise uniquement des produits de qualité de ma propre marque, Egurumi, dont je connais tous les produits car je les ai conçus. Je m'assure qu'ils ne contiennent pas de BPA dans la bouteille en plastique.
Bon, il faut que j'achète son produit. Oh, et il a aussi une communauté de créateurs rémunérés qui a malheureusement fermé, mais il ouvre 10 créneaux à quelques personnes sélectionnées. Donc, si vous réservez un créneau, vous pourriez y participer. Oui, n'oubliez pas que beaucoup de ces personnes sont de vrais mordus de créatures. Pas tous, mais beaucoup. Bon, on arrive à la fin de cette routine matinale. Je suis presque prêt à travailler. Je voudrais juste conclure en disant quelques mots, ou au moins en résumant ce qu'on a dit. Mais oui, j'ai l'impression que notre obsession pour la salle de sport et les compléments alimentaires est symptomatique d'une société où l'on a l'impression de perdre le contrôle, de perdre le contact avec les autres. On entend souvent dire qu'en temps de crise, d'incertitude, les gens se replient sur eux-mêmes ou idéalisent le passé. Et même si c'est vrai d'une certaine manière, ces périodes d'incertitude et de peur peuvent aussi engendrer de nouvelles formes de solidarité. Quand je dis cela, je ne peux m'empêcher de penser au peuple palestinien. Ils ont réagi à la peur avec résilience et créativité, en créant des systèmes pour compenser le manque de ressources et d'infrastructures. Je trouve cela profondément inspirant et motivant. Je trouve cela bien plus motivant que ces vidéos matinales, car cela me donne envie d'être une meilleure personne, pour moi-même, mais aussi pour les autres. Je suis encore jeune, mais plus je vieillis, plus je réalise que l'ouverture d'esprit est primordiale. C'est la clé du bonheur, avant l'épanouissement personnel, avant la richesse, avant tout le reste. On veut être un citoyen, vivre au rythme de tout ce qui se passe autour de soi et devant soi. On ne veut pas être un inconnu avec un micro collé à la bouche 24h, 24 et 7 J, 7, vivant au milieu de nulle part pour pouvoir prendre sa retraite à 40 ans et rester seul jusqu'à la fin de ses jours. Bref, il faut vraiment que j'y aille. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Celle-ci était un peu plus personnelle, un peu moins structurée, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'y reconnaîtront. Nous sommes tous en chemin. Je ne vous jugerai pas pour votre situation actuelle, mais je vous jugerai si, après avoir regardé cette vidéo, vous ne prenez pas au moins 10 secondes pour réfléchir à comment vous ouvrir davantage à l'extérieur. Si cela vous semble logique, ce matin était censé me rendre en pleine forme, mais comme vous pouvez le constater à ma voix, je suis vraiment malade. Bref, je voulais juste conclure cette vidéo en remerciant chaleureusement mes mécènes, et tout particulièrement mes plus grands mécènes. Hong Jing, Wong, Amensori, Agno, George, Jim, Wolf Q, Patrick Button, Dishmon, Nina, Jeff Lee, Yilan, TY Matin, Nick Brandon, Jim, O Pablo, Patrick Riley, Boris, Ria, Ki, Tristan, Christopher, Don, Alex, Manuel, Christopher, France et Perry. Et merci à tous ceux qui préfèrent rester anonymes. Bon, c'est tout pour moi. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir.